Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dimanche dernier, le tentateur essayait de persuader notre Sauveur de manifester publiquement sa qualité de Fils de Dieu en se jetant du haut du temple devant toute la foule afin d'être porté par les anges. Ainsi laissait-il entendre, tout le monde vous applaudira, tout le monde vous suivra, tout le monde reconnaîtra votre rang et vous rendra l'honneur qui vous est dû. Notre Seigneur refusa fermement ce miracle de pure ostentation. Il aurait pu répondre aux démons, ce qu'il dira plus tard aux apôtres, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il n'est pas venu mendier les applaudissements des hommes, mais les sauver. Il n'est pas venu sur terre pour étaler sa gloire, mais pour donner un exemple d'humilité. » Et pourtant, pour que cet exemple puisse porter, il fallait bien que notre Seigneur manifeste d'une façon ou d'une autre son identité divine. Il fallait même qu'il l'approuve par des signes proportionnés, des miracles qui soient vus et remarqués par les hommes. Et de fait, Jésus a accompli ces miracles. On peut même dire qu'il les a multipliés, mais toujours dans un climat de réserve et d'humilité, toujours avec une certaine retenue, et toujours dans un but de miséricorde et non de vaine ostentation. Jésus n'accomplit son premier miracle qu'à la demande de sa mère. Ils n'ont plus de vin. Il ne multiplie les pains que parce qu'il est ému de compassion pour cette foule qui l'a suivi et qui n'a rien à manger. Il ne consent à guérir la fille de la Cananéenne qu'après s'être longtemps fait prier. On a parfois l'impression que la foule des malades et des miséreux lui arrache des guérisons presque malgré lui, comme cette femme qui vient par derrière toucher la frange de son manteau. Bien sûr, notre Seigneur est consentant, mais s'il a réellement voulu faire ces miracles, et s'il a même plusieurs fois souligné qu'ils étaient la preuve de sa mission divine, il a aussi toujours montré une grande attention à ne pas trop en faire. Et l'on retrouve, mes frères, cette mesure, cette modération, ce parfait équilibre dans l'épisode de la transfiguration que nous venons d'entendre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Trois apôtres seulement, Pierre, Jacques et Jean, qui seront aussi les témoins de la douloureuse agonie, trois apôtres ont assisté à la scène et ne doivent en parler à personne, pas même aux autres apôtres, avant la résurrection. Pourquoi cette consigne? Pourquoi ce secret? Et si notre Seigneur ne voulait vraiment pas que cela se sache, pourquoi s'être montré ainsi transfiguré à ses apôtres? À cette deuxième question, la réponse est aisée. Notre Seigneur préparait la suite. Il préparait la prédication que les apôtres devraient faire après sa mort dans le monde entier. Et pour cela, il devait manifester quelque chose de sa gloire à des témoins choisis, des témoins sérieux, des témoins autorisés qui pourrait attester cette exaltation lumineuse à côté de Moïse et Élie, en même temps qu'ils attestaient la douloureuse humiliation de son agonie. Et pour asseoir solidement sur cette terre la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, pour enraciner cette foi, il fallait des prédicateurs à qui Jésus est manifesté de façon très spéciale, très forte, à la fois cette divinité et cette humanité. Ces témoins, ce sont les apôtres en général, mais aussi, parmi eux, plus spécialement, ce petit groupe de trois, Pierre, Jacques et Jean, car on trouve dans toute société, même celle des apôtres, une petite élite qui doit entraîner les autres. Il reste cependant la première question, pourquoi le secret ? Pourquoi cet épisode ne devait-il être divulgué, même aux autres apôtres, qu'après la résurrection ? On retrouve, mes frères, la grande humilité et la grande obéissance de notre Sauveur qui veut se conformer le plus possible au plan divin de la rédemption avec ses étapes distinctes, bien marquées et bien séparées les unes des autres. Selon ce plan, le Fils de Dieu doit s'incarner dans une chair mortelle, une chair passible, une chair semblable à celle du péché, dit saint Paul dans son épître aux Romains, c'est-à-dire dans un corps comme le nôtre, tel qu'il est depuis le péché originel. Et le Fils de Dieu incarné ne doit recevoir la gloire corporelle qui rejaillit normalement de sa divinité qu'après avoir mérité cette gloire par sa passion et sa mort sur la croix. Alors ici, l'un d'entre vous pourrait s'étonner et demander « Mais pourquoi donc Jésus devait-il mériter une gloire qui découle tout naturellement de son état de fils de Dieu ? À cette gloire n'a-t-il pas droit ? N'est-elle pas à sa disposition dès le moment de l'incarnation ?» Oui, il y a droit. Et cependant, il n'a pas voulu en jouir avant le moment marqué par le Père. Et on touche ici un aspect essentiel du mystère de l'incarnation que saint Paul souligne dans un célèbre passage de l'Épître aux Philippiens, cette épître qui est lue le dimanche des Rameaux et qui malheureusement n'est à peu près jamais commentée en chaire puisqu'il n'y a pas de sermon ce jour-là. Ce passage où saint Paul souligne comment le Fils de Dieu s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Car pour nous sauver, le Verbe de Dieu ne s'est pas seulement incarné, il s'est incarné dans un état humilié, un état où son corps était privé de la gloire qui aurait dû tout naturellement rejaillir sur lui. Et de même que notre Seigneur Jésus-Christ est roi à un double titre, il est roi par naissance et il a voulu l'être en plus par conquête, de même, il a voulu obtenir par mode de mérite et de conquête cette gloire corporelle à laquelle il avait pourtant droit. Et pourquoi cela ? Parce que il a voulu se mettre vraiment dans notre condition humaine. Il a voulu, comme nous, connaître cet état qui est la conséquence du péché originel et se faire exactement comme nous, sauf le péché. Et donc, il a voulu se soumettre, on peut dire, à la chronologie fixée par Dieu avec ses étapes, ses temps. Et il y revient assez souvent dans son évangile. « Mon heure n'est pas encore venue, dit-il. » Ou bien, il ne vous appartient pas de connaître les temps que Dieu a fixés de toute éternité. Il dit également, lorsqu'on vient l'arrêter. C'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. Et il reproche aux apôtres qui veulent le faire manifester à Jérusalem, du moins aux membres de sa famille qui veulent le faire manifester à Jérusalem, « Votre temps à vous est toujours prêt. » Autrement dit, vous ne savez pas distinguer les différents moments qui sont voulus par Dieu et vous voulez toujours bénéficier de la gloire et des miracles et vous ne savez pas passer par les temps d'humiliation et d'épreuves qui pourtant font partie du plan divin. Et mes frères, la Sainte Église, dans la liturgie de Carême, veut reprendre la pédagogie de Dieu. Dès maintenant, à travers la transfiguration, elle nous met sous les yeux la gloire de la résurrection qui va venir. Mais ça n'est pas pour nous faire brûler les étapes, c'est pour nous exciter à l'espérance et pour nous aider à continuer à pérégriner lentement, patiemment, vers d'abord la joie de Pâques dans quelques semaines et surtout vers la joie céleste, la gloire éternelle dont Pâques est dès maintenant l'annonce. Profitons donc de cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, de cet exemple qu'il nous a donné, même dans la transfiguration qu'il a voulu si limiter dans le temps et dans ses témoins, parce qu'il voulait se soumettre au plan de son Père. Profitons de cet exemple pour nous-mêmes rentrer à fond dans ce temps de carême. C'est le temps favorable, c'est le jour du salut, nous dit la liturgie. C'est-à-dire que si maintenant nous faisons les efforts de prière, de jeûne, de charité fraternelle, d'aumône qui nous sont demandés par l'Église, maintenant nous recevrons sa grâce. Mais ne cherchons pas à brûler les étapes, ne cherchons pas à vivre dans un état de consolation permanente, ce n'est pas le plan du bon Dieu. Que la Sainte Vierge nous aide à rentrer dans cette logique toute surnaturelle du temps de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.